En ce lundi de Pâques, un congé férié, ben, nous avons décidé d'enregistrer une émission spéciale pour vous. D'abord, deux personnes inspirantes viennent nous rejoindre aujourd'hui. L'auteur Éric Chacour, qui vient de publier un roman à succès très touchant d'un amour impossible qui se déroule entre l'Égypte et le Québec. Il va être avec nous en deuxième partie. Mais en première partie, nous recevons Farah Alibé. Vous vous rappelez certainement de cette personne qui est apparue toute joyeuse, toute étincelante sur nos écrans de télévision l'an dernier. Je dis une personne brillante, et pas seulement pour son sourire éclatant, mais surtout à cause de son intelligence et de ses capacités de communication surprenantes. Farah Alibé est une ingénieure en aérospatiale. Elle travaille au Jet Propulsion Laboratory. C'est un centre de recherche spatiale géré par le California Institute of Technology et c'est affilié à la NASA. Farah incarne le rêve de plusieurs d'entre nous qui, enfants, se voyaient partir dans une fusée et explorer l'espace et les autres planètes. Ben, elle n'est peut-être pas allée elle-même dans l'espace, sait-on jamais, ça va peut-être venir, on va lui poser la question tantôt, mais elle y va autrement, en tant qu'ingénieure qui contribue à l'exploration de Mars par des robots. Farah nous a appris aussi qu'elle se définissait comme une personne queer. Elle a écrit son récit de vie, un livre qui s'appelle Mon année martienne. On va toutes lui poser ces questions-là, pourquoi? Et c'est pour ces raisons qu'on l'a invitée à notre émission. Bienvenue, Farah, à l'heure où l'arc-en-ciel se lève.
Bonjour.
C'est vraiment, vraiment le fun de te rencontrer. Alors, pour les gens qui nous écoutent, Farah n'est pas en studio avec nous. Elle est nous rejoint par visioconférence. Alors, je suis le seul qui a la chance de la voir comme ça. Mais de toute façon, on est à la radio. Bienvenue donc. Et je pense, Farah, je vais te demander, tu utilises quels pronoms et quels accords?
J'utilise, en fait, en français, je ne sais pas c'est quoi. En anglais, j'utilise she ou they, donc
Oui.
un ou l'autre. Donc,
Elle ou IL en français, oui.
exactement, c'est ça.
Bon,
Donc, je pense que les gens ont tendance à utiliser elle plus, puis je suis correct avec ça, mais j'aime aussi quand les gens utilisent elle parce que c'est un peu plus, je sais pas, ça me représente un peu plus.
tout à fait, on va respecter ça, mais nous, on a convenu qu'on va utiliser aussi le pronom tu au lieu de vous.
Oui.
Ah, d'accord. Bon, ben écoute, c'est le temps de t'entendre. Parle-nous de toi. Tu es née où? Tu as grandi où? Parce que tu es québécoise d'origine, hein, c'est ça?
Oui, je suis québécoise d'origine. Donc, mes parents sont nés à Madagascar, mais eux ont immigré au Canada. Ma mère, elle avait 15 ans quand elle avait déménagé ici. Mon père était un peu plus âgé, en fait, c'est quand il a rencontré ma mère. Moi, je suis née à Montréal, mais j'ai grandi à Joliette. J'ai déménagé à Joliette quand j'avais 2 ans. Donc, j'ai fait mon primaire jusqu'à mon secondaire 2 à Joliette. De là, ma famille a déménagé en Angleterre. Donc, j'ai grandi, j'ai fait la fin de mon secondaire, l'équivalent de mon cégep. Dans la ville de Manchester, qui est au nord de l'Angleterre. Et de là, je me suis beaucoup déplacée dans ma vie. J'ai fait mon université à l'université de Cambridge jusqu'à ma maîtrise. Je suis revenue vers les États-Unis pour faire mon doctorat à Boston. Et maintenant, j'habite à Los Angeles. Donc, un petit tour de l'Amérique du Nord et de l'Europe.
Mais c'est plus en avion, certainement pas en navette spatiale, malheureusement pour toi. Écoute, retournons à ton enfance, c'était comment de grandir dans Joliette? Parce que bon, je pense qu'on va dire les choses, tu le dis dans ton livre, tu t'identifies quand même pour comme une personne, une femme de couleur, issue aussi d'une famille de l'immigration. Alors, c'était comment, toi, de grandir dans tout ça, dans un milieu très québécois, très pur laine, là?
Oui, ben je dis que ça a ses beaux côtés et ses moments difficiles aussi. D'un côté, grandir à Joliette, c'est quand même une ville assez idyllique. Je me souviens que ben, mes parents, on avait un grand terrain, on avait une piscine, on partait en vélo le matin. Dans ce temps-là, on n'avait même pas de téléphone cellulaire ni rien. On partait en vélo, on allait voir nos amis, on revenait. C'est une vie complètement différente de ce qu'on peut vivre comme dans une métropole, par exemple. Et j'ai grandi en faisant du patinage artistique. On allait skier à Val-Saint-Côme, on faisait du patin sur la rivière l'hiver. Donc, tous ces côtés-là de la culture québécoise, de grandir au Québec, je les ai très, très bien vécus. J'ai adoré ça. Mais d'un autre côté, il n'y avait pas beaucoup de familles d'immigrants à Joliette. Et surtout, il n'y avait pas beaucoup de familles d'immigrants visibles. Donc, il y avait de la couleur de peau différente. Et ça a causé quand même beaucoup de problèmes, des moments difficiles. Ma mère m'a raconté que la première fois qu'on était allé au McDonald's à Joliette, les gens nous demandaient, vous venez d'où, vous autres? Les gens se retournaient pour nous regarder. Les gens dans l'autobus m'arrêtaient pour me demander d'où tu viens, d'où, rentre chez toi. Il y avait beaucoup de racisme à l'école aussi, du bullying. Donc, ce sentiment de se sentir autre, de se sentir différente, c'en est un avec lequel j'ai grandi. Puis ça, c'est pas facile quand t'es à l'âge de 5, 6, 7 ans, quand t'es déjà différente pour d'autres raisons, mais que les gens te traitent différemment à cause de la couleur de ta peau, que t'as de la difficulté à faire des amis à cause de ça. Et le bullying qui était quand même assez intense, je pense que ça a été des moments très, très, très difficiles. Éventuellement, j'ai découvert que, ben, en fait, tout ce que je vivais, c'était beaucoup à cause de, relié au manque d'éducation. Fait que ces personnes-là, peut-être, n'avaient jamais vu une personne de couleur. Donc, quand tu vis un racisme comme ça, c'est pas, moi, je me sens pas fâchée de ça contre ces personnes-là parce que pour moi, c'est triste que ces personnes-là n'avaient pas cette éducation-là. Puis j'espère qu'en m'ayant rencontré, ils ont peut-être changé un peu. Puis peut-être que maintenant, quand ils rencontrent des personnes de couleur, ils les traitent différemment.
Mais toi, comment t'as fait pour avoir cette résilience? Là, je t'entends, puis je vais te confier que moi aussi, j'ai vécu de l'intimidation, du bullying, peut-être pas pour la couleur de peau, évidemment, parce que je suis une personne blanche, mais parce que j'avais l'air queer, j'avais l'air d'une tapette, on va dire le vrai mot. Alors, c'était très difficile pour moi. Comment toi, t'as fait pour passer au travers de ça, puis et réussir comme t'as réussi, là? Comment t'as fait à cette époque-là?
Je Non, mais j'allais. Je veux dire que c'est des moments qui m'ont fait mal toute ma vie. T'sais, pendant même en grandissant, en étant adolescente, j'en parle dans mon livre d'ailleurs, que t'sais, longtemps, je me suis pas sentie belle parce que j'avais une couleur de peau différente, parce que pendant si longtemps, on m'avait traité différemment à cause de qui j'étais, à cause de mon ethnicité. Ça a pris beaucoup, beaucoup de temps. Une chose qui s'est passée, c'est que quand j'ai déménagé en Angleterre, il y avait beaucoup plus de personnes indiennes. Donc, à ce moment-là, je me suis retrouvée quand même dans une communauté où il y a des gens qui me ressemblaient. Puis ça, je pense que trouver sa communauté, on a tous vécu ça d'une manière ou d'une autre, mais je pense que ça commence un peu là parce que ça nous donne la force de réaliser qu'on est une belle personne. Qui qu'on soit, que quoi qu'on soit. Donc ça a été une chose. Puis je pense que la deuxième, c'est plus avec le temps, avec la séparation. Puis j'ai vu que, bon, mais grandir dans un environnement comme ça m'a donné quand même une certaine résilience, ça m'a donné une force de caractère que je peux utiliser maintenant dans mon travail, dans mon environnement où je suis encore une minorité. Je ne vis pas le bullying que je vivais quand j'étais jeune, mais je pense que ça m'a quand même donné une force de caractère. Puis je suis devenue la personne que je suis un peu à cause de ces étapes-là de ma vie. Donc j'essaie de prendre le positif d'un moment quand même assez difficile.
C'est quelque chose que j'ai lu dans ton livre. Ça revient très, très souvent parce que tu as fait face à beaucoup d'adversités. C'est pas si facile que ça, te rendre où ce que tu t'es rendu. Tu l'as pas eu facile. Puis on va y revenir, mais je pense que c'est vraiment une qualité chez toi. Puis je sais pas si un jour tu vas être capable de l'écrire, comment on fait ça pour garder le positif dans tout, parce que c'est vraiment surprenant comment tu t'en es sorti, là.
Oui, merci, mais je pense que j'ai toujours été une personne quand même assez positive. Puis même si j'ai vécu ces moments difficiles-là, j'ai quand même eu un beau privilège dans ma vie d'avoir grandi dans une maison avec mes deux parents. J'avais un frère, on faisait du sport, on a quand même toutes ces belles choses-là qu'on a eues dans notre vie, qu'on a eues à cause des sacrifices que mes parents et mes grands-parents ont fait quand ils sont partis de leur pays. Je pense que en sachant que tout ce que ma famille a fait pour nous offrir cette vie-là, je pense qu'on peut seulement être positif parce qu'il y a eu tellement des belles choses dans mon enfance. Quand j'ai déménagé en Angleterre, on a voyagé, puis avoir toutes ces belles choses-là dans sa vie, qu'il y a des gens qui. que ça donne envie. On peut pas. Je pense qu'on ne peut pas ne pas voir la vie de manière positive quand on a ces belles choses-là, même s'il y a des choses difficiles à côté.
Avant de passer à ton travail d'ingénieur, j'aimerais quand même, parce que tu as fait une sortie publique en tant que personne queer, qu'est-ce que tu entends par cette définition-là pour toi?
Mais pour moi, en fait, j'utilisais avant le mot bisexuel parce que je sors avec des hommes ou des femmes. En ce moment, mon partenaire est un homme. Ça fait quand même longtemps qu'on est ensemble. Et donc, puis c'est intéressant d'ailleurs parce que justement, je suis dans une relation hétéronormative, donc avec un homme. Et donc, je n'avais pas vraiment besoin d'expliquer ma sexualité, mais pour moi, c'est très important de partager ça. Puis je pense qu'on oublie des fois que tu peux voir quelqu'un en couple, puis ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas queer, qu'ils ne font pas partie de la communauté LGBTQ. Puis pour moi, c'est vraiment une grande partie de moi. Mais dans le fond, c'est ça. J'utilisais le mot bisexuel, mais je trouvais que c'était trop binaire.
Ouais.
On dirait ça fait, parce qu'il y a vraiment le mot bi dedans. Donc, je préfère le mot queer parce que c'est un peu plus. La définition de queer est un peu plus individuelle. Donc, chaque personne en retrouve ce qu'ils veulent. Puis, queer, pour moi, tu sais, j'aime ça que ça vient un peu du mot bizarre, différent, parce que c'est ça, dans le fond. Je veux pas avoir à m'expliquer exactement c'est quoi ma sexualité, parce que je pense que c'est quelque chose que je découvre et je vais continuer à découvrir pendant ma vie. Mais, désolée, j'ai une
Ben,
petite
juste pour que
toux.
les gens le sachent, je pense que tu avais la grippe ou le rhume ou la COVID là,
Oui,
avant
j'avais la
cette
COVID
entrevue.
récemment, donc tout ce qui me reste, c'est une
Oui,
petite toux qui, des fois,
on
qui prend
comprend
pas des
ça.
fois.
Oui. Ben,
mais
mais
c'est ça,
je veux
donc
revenir
c'est.
sur ça. Je reviens sur ça parce que est-ce que c'est quelque chose que tu as découvert plus jeune? Est-ce que ça a joué aussi dans l'intimidation ou le bullying que tu as subi plus jeune?
Oui et non, dans le fond, oui, je pense que je le savais quand j'étais plus jeune, mais non, parce que j'étais pas out. En fait, ce qui s'est passé quand j'étais jeune, c'est que. Je pense que je savais déjà que j'étais peut-être pas hétérosexuelle, t'sais, comme super straight quand j'étais jeune, parce que t'sais, en grandissant, tu découvres ce qui t'intéresse, des choses comme ça. Mais ce qui s'est passé à l'âge de 10, 11, 12 ans, quand on découvre ces choses-là, c'est que j'aimais les garçons. Puis je me suis dit, pour moi, j'étais déjà tellement différente avec. Tout ce que j'étais, que j'étais comme non, je veux pas. C'était vraiment intentionnel à ce moment-là que je me suis dit non, non, moi, je veux pas être plus différente que ça. C'est assez. J'aime les garçons. Je vais même pas y penser au reste. Je vais être straight, puis ça va être ça. Puis très, très longtemps, ça a été ça pour moi pendant les 10 années après que j'aimais les garçons, je sortais avec les gars, c'était correct. Puis éventuellement, je pense que c'était à l'université et plus tard. Que je me suis donné permission, peut-être parce que je me sentais mieux dans ma peau, que j'avais trouvé ma communauté. J'ai déménagé, j'étais à Boston, puis après à Los Angeles, des villes qui sont très, très ouvertes aussi. Puis je pense que c'est ça qui m'a donné la force de dire, OK, j'aimerais ça peut-être explorer cette partie de moi que j'ai laissée dans une boîte à côté. Donc moi, non, le bullying relié à ma sexualité, je ne l'ai pas vécu. C'était un peu peut-être par choix. Puis c'est ça, encore là, c'est un privilège que j'ai même eu pu faire ce choix-là en étant jeune. Mais je suis contente que d'avoir réouvert cette partie de moi puis de l'avoir découvert parce que je me sens beaucoup plus complète maintenant que je m'assume 100% moi-même.
Je vous rappelle donc que nous sommes en entrevue avec Farah Alibé, ingénieure spatiale, une personne que je dis lumineuse et même malgré le fait qu'elle nous revient un petit peu d'une convalescence de COVID, avec son toujours lumineuse. Et j'aimerais justement aller un petit peu plus loin dans tout ce que tu as dû combattre parce que devenir ingénieur spatial, c'est un milieu de gars, on va se le dire.
Oui.
Alors, d'abord, comment t'es venue l'idée d'aller dans cette branche-là?
Mais moi, j'ai grandi dans les années 90, donc j'ai grandi avec Star Wars, Star Trek. C'est un film qui m'a beaucoup, beaucoup inspiré. C'était Apollo 13. Donc, j'ai grandi avec la tête dans les étoiles. Figurativement. Et donc, je pense que c'est vraiment comme, tu sais, tout le monde a son rêve d'enfance de qu'est-ce qu'il voudrait faire, être tu penses être pompier, être astronaute, être un rockstar, mais pour moi, c'était d'être astronaute, puis je l'ai comme, j'ai jamais perdu de vue ce rêve d'enfance, dans le fond. Mais j'ai aussi toujours été une fille comme bricoleuse qui essayait de comprendre le monde autour de moi. Donc, je pense qu'entre ces deux choses-là, j'étais comme peut-être destinée pour aller en aérospatiale. Donc, c'est vraiment un rêve d'enfance que j'ai continué à poursuivre toute ma vie.
Mais on t'a dit, il y a quand même des profs ou des personnes qui t'ont dit non, on va pas là, c'est pas un domaine pour les filles.
Oui, puis je pense que ça a été beaucoup comme la société, je l'avais entendu. Ah, comment est-ce que tu vas faire? Comment est-ce que tu vas faire pour avoir des enfants, t'occuper d'une famille, être ingénieur, ça va pas ensemble. J'ai aussi eu une orientatrice de carrière qui m'a dit, ben Farah, quand même, c'est un monde d'hommes. Je ne sais pas si tu vas réussir là. Tu as des bonnes notes, tu peux choisir n'importe quel métier que tu veux. Pourquoi est-ce que tu irais en ingénierie? C'est pas comme cette personne-là en particulier, c'est pas comme si elle me voulait du mal. Je pense que c'est plus que elle voulait comme m'avertir que ça serait un monde dominé par les hommes. Puis c'est vrai que c'est pas toujours facile. On est comme environ 25% de femmes dans ce domaine-là, un peu moins. Il y a des microagressions, on est traité différemment. Ça s'améliore bien sûr, mais ça n'a pas toujours été facile. Donc elle n'avait pas nécessairement tort. Mais je pense que quand il y a un problème dans la société, on devrait pas dire aux jeunes, non, mais toi, adapte-toi au problème, puis évite le problème. Ça doit être le contraire, qu'on doit se changer nous-mêmes quand on sait qu'il y a un problème, puis qu'on doit être capable d'inviter tout le monde à la table, d'inviter tout le monde à poursuivre leur rêve.
Tu as mentionné tout à l'heure, en début de réponse, comment peux-tu faire ça et avoir des enfants? Est-ce que c'est quelque chose que tu rêves de faire, d'avoir des enfants, devenir une maman?
Pour moi, non. Personnellement, c'est pas quelque chose qui, c'est jamais quelque chose qui m'a intéressée. Donc, c'est pas parce que c'est super beau d'être une maman et d'avoir une famille, mais pour moi, ma famille, c'est mon chum et mon chien et moi. Je redonne à la société d'une manière différente. Je vais beaucoup dans les écoles. Je suis volontaire dans un programme qui s'appelle Grand Frère, Grande Sœur ici aux États-Unis. Et aussi, je travaille avec des jeunes qui sont à l'équivalent de la DPJ ici. Donc ça, c'est ma manière de redonner à la société. Mais personnellement, cette envie d'avoir des enfants, c'est pas quelque chose que moi, j'ai jamais senti ça, dans le fond. Donc ça fait pas partie de ma vie. Puis justement, je trouvais ça bizarre étant jeune que les gens me disent, ah, mais comment tu vas faire pour avoir des enfants, une famille? Puis je me disais, ben, premièrement, une famille, ça se fait pas nécessairement tout seul. Il y aura quelqu'un d'autre. Mais deuxièmement, c'était pas un facteur dans mes décisions. Mais quand je dis ça veut pas dire que mon métier ne permet pas ça. J'ai bien sûr beaucoup d'amis, de collègues qui ont des enfants et ça se fait très, très bien. Donc, je pense que c'est un mythe de dire que il y a certains métiers que pour une femme ou pour une personne d'avoir des enfants, c'est pas possible. Ça se fait très bien, il faut juste apprendre à avoir ses priorités.
Puis tu me permets peut-être d'ajouter aussi que ce n'est pas une obligation pour une femme d'avoir des enfants.
Non, exactement. Et pour moi, c'est vrai que les gens au début étaient un peu surpris. Pourquoi tu veux pas des enfants? J'étais comme, j'ai pas à m'expliquer. C'est juste, j'ai pas le goût. C'est comme, est-ce qu'on demande à une femme pourquoi est-ce que tu veux des enfants? Non. Je pense que c'est un choix personnel. Chacun fait ça dans sa vie. Puis pour moi, en tout cas, pour le moment, ça fait pas partie de mes plans.
En tout cas, Farah, j'admire ta candeur. À chaque fois qu'on te pose une question, c'est pas une réponse de politicien. Tu nous dis exactement, tu nous donnes l'heure juste. Puis ça, je pense que ça fait du bien. Et je t'amène sur un autre sujet. Moi, je suis un homme, un homme blanc, mais je suis un homme cisgenre. Mais tu es une femme. Les femmes vivent beaucoup de discrimination dans nos sociétés. C'est toujours et encore là. Comment, tu sais, tu parles que tu vas dans les écoles et tout ça. Alors, comment vois-tu ton rôle, toi? Te vois-tu comme un modèle pour ces jeunes femmes qui sont derrière et qui se disent, ah ouais, peut-être que j'ai dû, je suis-tu capable? Qu'est-ce que tu fais? Tu te vois-tu là-dedans, toi?
Mais je sais pas si c'est nécessairement que je me vois comme un modèle, mais je pense que pour moi, je fais ça parce que je sais que moi, c'est quelque chose qui m'a manqué à l'école, à l'université, de voir je suppose, des modèles différents, des exemples différents d'ingénieurs. Puis c'est aussi pour ça que je suis honnête, parce que c'est ça qui m'a manqué. Quand on est jeune, tu sais, moi, les modèles que j'avais quand j'étais jeune, c'était dans les magazines. Puis c'est à peu près tout. Peut-être que c'était le début de l'Internet, mais tu sais, c'était les gens qu'on voyait à MTV et dans les magazines, puis c'était à peu près ça. Donc, c'était pas exactement des modèles qui me ressemblaient, des modèles qui avaient les mêmes aspirations de carrière que moi. Et rendu à l'université, encore là, je me retrouvais dans un monde très, très blanc, très, très masculin. Donc, quand je regardais, c'est comme un grand modèle pour moi, c'était Carl Sagan, un ingénieur, un scientifique extraordinaire, mais qui ne me ressemble pas du tout. Ces modèles-là m'ont apporté des belles choses, mais c'était jamais comme un modèle complet. Longtemps, j'avais la misère à m'assumer avec moi-même, justement, dans ce domaine-ci, parce que je voyais personne qui me ressemblait, qui avait des faits vécus similaire au mien. Éventuellement, j'en ai trouvé des gens comme ça, que ce soit dans l'aérospatiale en général ou à mon travail. Mais c'est quelque chose qui m'a manqué. C'est pour ça que je le fais. Donc, je me dis que d'un côté, peut-être que si quelqu'un se reconnaît dans mon histoire, que ce soit une petite partie de mon histoire, une petite partie de moi qui se reconnaisse là-dedans, puis que se sente peut-être moins seul, parce que je pense que mon enfance, ça a été marqué beaucoup de solitude. C'est tellement un beau cadeau à offrir, juste en étant soi-même, de pouvoir inspirer quelqu'un d'autre. Donc, pourquoi ne pas le faire?
Ah, c'est beau. Comment vis-tu? Tu es quand même devenue une personne célèbre au Québec, du moins au Canada. Comment vis-tu cette célébrité-là? C'est quand même inusité pour une ingénieure spatiale.
C'est spécial parce que, dans le fond, en vivant à Los Angeles, je le vis moins. C'est sûr que c'est toujours spécial quand j'ouvre un Zoom d'une personne puis qu'ils me connaissent déjà. Donc, je le vis un peu moins dans ma vie de tous les jours. Mais quand je rentre au Québec, c'est vrai que c'est spécial. Des fois, les gens me reconnaissent ou les gens vont reconnaître mes parents. Mais je pense que, tu sais, je profite de chaque moment. T'sais, ça durera peut-être pas toujours, mais c'est aussi tellement beau de dire que les gens me connaissent juste pour qui je suis, pour ce que j'aime faire, puis me reconnaissent juste à cause de ça. Puis c'est beau. Moi, je trouve que c'est tellement un beau cadeau que les gens m'offrent en faisant ça. Et je suis tellement contente de partager ma passion. Moi, ça me fait plaisir, dans le fond. C'est toujours inattendu à chaque fois que ça arrive.
Et tes collègues de travail à Los Angeles, il faut dire qu'à Los Angeles, il y a beaucoup d'autres étoiles aussi, mais pas dans
Oui.
le même domaine. Mais tes collègues de travail, comment ils vivent ça? Est-ce qu'ils savent que tu es devenue une personne célèbre dans ton patelin?
Ben, je pense qu'ils savent un peu parce qu'ils voient comme mes médias sociaux ou ils voient mes livres, des choses comme ça. Mais je dois dire que tu sais, je suis peut-être pas la seule dans mon domaine ici. Tu sais, des communicateurs en sciences, ça existe beaucoup, surtout des gens de mon âge à peu près. Il y en a même comme à mon travail. Donc, je pense que c'est peut-être un petit peu moins unique ici, la communication en sciences et les gens qui sont connus à cause de ce travail-là. Mais tu sais, je pense que aussi, je suis toujours moi-même, j'ai pas changé, en tout cas, j'espère que j'ai pas changé. Donc, je pense que pour les gens autour de moi, c'est comme, ah, c'est bien cool que tu fais ça, puis ils retournent à être mon collègue ou mon ami parce que je suis encore la même personne, en fait.
Puis ils sont cool aussi avec le fait que tu t'affirmes comme une personne queer, parce que là, tu le fais vraiment, là, dans ton travail, ils le savent, là.
Oui. Puis je pense que, tu sais, de ce côté-là, je pense que cette peur d'être comme out au travail que j'avais au début, parce que ça m'a quand même pris du temps pour partager ça au travail, je pense que c'était une peur peut-être plus interne, soit ça ou que le travail, les gens autour de moi ont changé. Encore là, tu sais, j'ai retrouvé mon univers, mon monde à mon travail. Je suis pas unique en étant queer et loin de ça. Je dis pas que ça vient pas avec ses difficultés, mais pour moi, personnellement, ça n'a pas été trop difficile, ce côté-là de moi, d'être ouverte à propos de son travail.
Ben, écoute, on n'a plus beaucoup de temps à cette entrevue, mais je veux quand même savoir quels sont tes prochains projets, toi, en tant qu'ingénieur spatial.
Bon, en ce moment, je travaille sur un télescope qui va être lancé en 2025. C'est un télescope en infrarouge qui s'appelle SpheREx. Il va prendre des cartes complètes de l'univers, justement en infrarouge. Ça va nous permettre d'étudier, en fait, au tout début de l'univers, il y a eu le Big Bang. Après ça, il y a eu une inflation. L'univers a commencé à s'étendre. Et donc, ça va étudier le mécanisme de l'inflation de l'univers qui s'est passé au tout début de l'univers, en étudiant justement, prenant des grandes cartes en trois dimensions de toutes les galaxies ben, pas toutes les galaxies, mais d'un demi-million de galaxies dans l'univers. Donc, quand même une très belle mission. C'est une mission qui est beaucoup plus petite, très différente pour moi parce que j'ai surtout travaillé sur des missions martiennes. Puis là, on s'en va, on part de la recherche de la vie au début de l'univers. Donc, quand même une grande question, quelque chose de complètement différent. Mais moi, ce que j'aime, c'est le défi. J'ai un rôle plus important dans la mission. C'est quelque chose de complètement différent. On travaille avec un partenaire différent pour cette mission-là. Donc, c'est une belle aventure.
Et penses-tu un jour qu'on va te voir dans l'espace ou sur la Lune ou sur Mars? Sérieux, là, c'est quelque
J'espère,
chose qui... Ah,
j'espère,
oui.
c'est encore un grand rêve. Donc, à chaque fois que le Canada ouvre ces applications d'astronautes, j'applique. Ça fait un petit bout qu'ils avaient ouvert ça, donc j'espère qu'ils vont refaire ça bientôt. On verra peut-être un jour, mais ça coûte rien de rêver grand. Puis au pire des cas, c'est pas pire comme backup la job que j'ai en ce moment.
Ben oui, tu as tellement l'air d'une personne heureuse et comblée. Je voulais vraiment te remercier du fond du cœur de prendre du temps parce que je sais que tu es occupé, puis de prendre tout ce temps-là pour nous, pour notre émission, pour nos auditeurs. Merci beaucoup, Farah Alibé.
Mais c'est un plaisir, bonne journée.